Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, je reçois l'homme qui dessine et conceptualise notre époque en la mariant à l'intelligence du futur. Philippe Starck, le chaman et démiurge virtuose d'une modernité qui nous veut du bien. Bonjour Philippe Starck.
Bonjour.
Alors cher Philippe Starck, des hôtels à l'aéronautique, des casques audio aux éoliennes individuelles, des vêtements ergonomiques aux maisons écologiques, depuis 4 décennies, vous façonnez votre vision et la nôtre de ce que produit notre monde. Et en même temps, vous êtes le seul designer que j'entends affirmer « le beau n'existe pas ». Seul compte la cohérence. Alors pourquoi pour vous le beau n'existe-t-il pas ?
Le beau, c'est un mot valise dans lequel on met tout et n'importe quoi. D'abord, qui n'a pas de valeur universelle, puisque ce qui est beau pour quelqu'un ne l'est pas dans un autre pays ou ailleurs, ou dans une autre famille culturelle, et qui est surtout terriblement volatile. Et c'est sa volatilité qui est dangereuse, car à notre époque où la meilleure situation écologique est la durabilité, la longévité, l'héritage et la transmission, il faut arrêter de trouver les choses belles parce qu'à un moment, on les trouve moches. Quand on les trouve moches, on les jette. Et à ce moment-là, eh ben, on a fait une grave erreur.
Donc, il vaut mieux les trouver bonnes.
Il faut les trouver bonnes. Est-ce que c'est bon pour moi ? D'abord, la question, est-ce que j'en ai besoin ? Si vous posez cette question, si vous acquérez cette chose, elle sera bonne pour vous parce que vous en avez réellement besoin. Puis après, il faut savoir nettoyer de toutes les symboliques de représentations affreuses, celle de l'argent, celle de la virilité, celle du macho, on va dire, celle d'une sexualité exacerbée dans les multiples sens. Et après, si vous avez fait encore attention à ce que ça ne consomme pas trop d'énergie à être fait, pas trop de poids, eh bien, vous pouvez vivre avec. Et à ce moment-là, cet objet est bon. Il ne faut surtout pas parler d'esthétique, c'est là, dans le même tiroir que le beau. Oh, je trouve ça esthétique. Oh, je trouve pas ça esthétique. Mais d'abord, on s'en fout.
Oui, c'est pas le sujet. Mais pourtant, je vais rester quelques secondes dessus. Si le beau n'existe pas, Philippe Starck, le design finira par ne plus représenter que la fonction de l'objet. Et un monde exclusivement fonctionnel manquera sans doute de curiosité, alors, peut-être
pas,
de grâce.
Ce n'est pas exactement ce scénario. Le design aujourd'hui est un gros pansement. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des obligations. Il y a des objets dont on a absolument besoin, ou on croit avoir besoin, mais enfin en tout cas, ils existent. Et le designer est simplement quelqu'un engagé dans une opération suicide qui est d'essayer de le rendre supportable. Et pour essayer de le rendre supportable à nous humains, sensibles, et bien on va essayer de le rendre moins moche. Donc ce n'est que du pansement, ce n'est que de la cosmétique, ça ne sert à rien. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de futur pour le design, dans la mesure où l'axe, la stratégie la plus intelligente de la production humaine s'appelle la dématérialisation.
Oui. Aller vers les purs.
Autrement dit, aller vers le rien. Avec le rien, c'est-à-dire augmenter la puissance, la compétence, l'intelligence et faire disparaître la matière.
C'est ce qu'on voit par exemple avec les smartphones.
Bah évidemment, c'est un des plus beaux exemples. Et donc, nous sommes à la veille du basculement vers le bionisme, vers l'homme amélioré, vers le surhumain, qui sera en fait seulement l'humain. Et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de designer parce que le designer, le produit sera votre corps et le designer de votre corps sera votre prof de gym, votre coach, votre diététicien et ainsi de suite. Il n'y a pas dans l'avenir de produits. Il n'y a plus que des services dématérialisés.
Alors, on a bien compris que pour vous, la beauté, en fait, c'est pas une notion fiable, car elle doit naître de la fonctionnalité, de la cohérence,
de l'harmonie.
Mais ça implique, bien sûr, de séparer le design de l'art. Car que dire alors du plafond de la chapelle Sixtine ? Là, on est dans une ivresse de beauté pure qui n'a d'autre but que de nous consoler.
Alors d'abord, le plafond de la chapelle Sixtine, c'est purement fonctionnel. C'est de la propagande. C'est de la propagande religieuse.
Ah, c'est facile.
Mais évidemment, afin d'une prise de pouvoir sur les gens. Puis après, coup de bol et intelligence des gens qui veulent prendre le pouvoir, c'est qu'ils prennent un génie absolu et c'est en effet extraordinaire. Mais est-ce que c'est de l'art ? Ça dépend, il aurait fallu demander à l'auteur. Êtes-vous un artiste ? Et on aurait peut-être eu des surprises parce que vu l'intelligence du garçon, il aurait peut-être répondu non, je suis un créateur, je suis un ingénieur. Vous savez, il existe un petit objet qui existe de moins en moins d'ailleurs, qui est remplacé maintenant par des inscriptions sur votre écran, qui s'appelle une carte de visite. Et sur les cartes de visite, il y a marqué le nom. Et quelquefois, et souvent, il y a marqué la profession du monsieur ou de la dame. Il y a marqué plombier, il y a marqué journaliste, il y a marqué avocat, il y a marqué designer. Et quelquefois, il y a marqué artiste. Et bien, la personne est artiste si elle marque sur sa carte de visite et si elle dit qu'elle est un artiste. Seule la déclaration d'être fait que l'on est. Donc, moi, je ne déclare absolument pas que je suis un artiste.
Parce
moi,
que j'essaye... tout ce que vous venez de nous citer.
Moi, j'essaye simplement d'être un créateur. Et hélas, je vois beaucoup d'artistes qui ne sont pas créateurs. Et je vois, par contre, je suis très intéressé de voir
des ingénieurs qui sont
de créateurs qui sont formidablement créatifs.
Alors, notre présent est déjà dans la dématérialisation. Les objets de demain auront moins de visibilité pour plus d'intelligence. Mmh. Donc, Philippe Starck, les designers, vont avoir des interventions de plus en plus minimes sur les objets de notre quotidien.
Oui, on est appelé à disparaître dans les 15 ans qui viennent. Ça va aller assez vite maintenant.
Donc, ça signifie que vous conseillez à un jeune aujourd'hui de ne pas s'aiguiller vers le design.
Leur raison, c'est qu'il y a quelque chose qui est très dangereux, c'est de choisir un métier à la mode. Parce que par génération, il y a toujours le métier à la mode. Alors je suis un petit peu responsable de ça et je m'en excuse, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une flopée de gamins qui veulent être designers parce que c'est ça, il faut être designer comme il a fallu être photographe de mode, comme il a fallu être kiné à un moment d'ailleurs, des choses aussi rigolotes que ça. Et donc, s'ils font le métier à la mode, ça veut dire qu'il y en aura des milliers et surtout des milliers en trop. Et donc, si on est en train de conseiller des jeunes gens aujourd'hui sur l'orientation, c'est de commencer à être intelligent, de commencer d'être out of the box et de dire quel est le métier qui n'existe pas, quel est le métier qui n'est pas en train d'être préparé, quel est le métier que ne vont pas faire mes camarades. Et lui, la personne qui va choisir ça, elle a de l'avenir.
Ceux qui nous écoutent ont compris que cette balade en compagnie de Philippe Starck s'annonçait absolument passionnante. On se retrouve tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
On chemine cet après-midi en compagnie du créateur et visionnaire Philippe Starck. Cher Philippe Starck, vous confiez « Je suis devenu ultra créatif pour échapper au gouffre qu'est l'enfance ». Pourquoi votre enfance fut-elle un gouffre ?
Mais est-ce que l'enfance n'est pas structurellement un gouffre ?
Peut-être pas pour tous les enfants.
Oui, peut-être. Et d'ailleurs, j'ai peut-être une conclusion là-dessus, sûrement hâtive. Et sûrement de café, mais j'ai l'impression quand même qu'avoir une enfance trop heureuse n'est pas forcément une bonne idée. D'abord parce qu'on vit toute sa vie dans le regret de son enfance, et après le confort n'a jamais été générateur de créativité.
Bien sûr.
Alors dans ce cas-là, moi j'ai pas eu de grands malheurs. J'ai pas eu de grands malheurs. Ma famille n'a pas été assassinée par les Houthis ou les Rwandais divers. Découpé en rondelles, simplement que j'étais nulle part. Nulle part, totalement nulle part. Perdu. Perdu sans avoir l'impression de l'être, sans vouloir l'être.
Vous ne trouviez pas votre place
étant enfant. Du tout, comme je n'ai jamais trouvé ma place, je me la suis faite, mais je n'ai jamais trouvé. Et c'est des moments affreux. Affreux.
Il paraît
des jours comme
que
du plomb.
Vous passiez votre enfance à fuir. On vous croyait par exemple à l'école, vous vous évadiez pour ne plus revenir et en fait, souvent vous êtes rentré à la maison entre deux gendarmes.
Ah oui, bien sûr, c'était l'habitude ça, Oui, je revenais toujours accompagné par la police. Et je repartais le lendemain. La fuite pour moi a été constante comme elle continue à l'être. Pourquoi j'ai différentes maisons, pourquoi je voyage en permanence, pourquoi j'ai pas de téléphone, pourquoi j'ai pas de mail, pourquoi j'ai pas d'ordinateur. C'est que je ne suis pas repérable, j'ai rien à cacher, je suis d'une transparence totale.
Alors revenons à l'enfance, Philippe Starck. Les premières années de votre vie ressemblent tout de même à une belle histoire, même si vous nous dites que l'enfance fut un gouffre. Votre père André Starck a conçu dans les années 40 et 50 des avions de tourisme, légers, très élégants, très performants. Et vous dites que lorsque vous étiez très jeune, vous faisiez la sieste sous sa table à dessin, au milieu des rouleaux de papier et des maquettes d'empennage et d'ailes. Est-ce qu'il a su vous parler de sa passion, votre père ? Ou pas du tout ?
Sûrement. D'abord, c'est pas la sieste, c'était mon lit, parce que mon père dépensait tout son argent pour ses avions, et donc on habitait un petit deux pièces, et donc il n'y avait pas la place, je couchais dans son bureau, sous la table, avec les abacs, les perroquets pour faire les belles courbes, les choses comme ça. Et par osmose, il m'a transmis qu'un des plus beaux métiers du monde, c'était de créer, pour plein de raisons, parce que c'était peut-être utile, et surtout, on travaillait personne d'autre. On n'a pas d'esclaves, on n'a pas d'employés, on est face tout nu, en face de soi-même, Et il faut qu'on sorte les idées. Et donc, c'était avant tout un inventeur. Il était un inventeur en avion, mais il était un inventeur en plein de choses. Et après, c'était
et après,
aussi...
il a disparu de votre vie,
après,
votre père. Vous aviez eu 8 ans, n'est-ce pas ?
Oui, je crois.
Et vous ne l'avez jamais revu après le
non,
divorce ?
Non, parce que j'étais mal conduit avec ma mère. Et moi, je suis, hélas, bêtement et naïvement, un être moral. Et donc, je n'accepte pas les mauvaises conduites. Je n'accepte pas certaines choses. C'est sûrement très bête. Mais mon père s'était mal conduit, donc j'ai puni mon père en ne le revoyant jamais.
Alors, qui a eu l'idée, Philippe Starck, de vous faire entrer à l'école Camondo, qui forme des architectes et des designers de renom ? C'était votre souhait ?
Non, c'était un amant de ma mère, un garçon qui s'appelait Louis Double de Clagny, qui était un prêtre cathare défroqué, quand il faut le faire. Et un jour, je rentre dans l'appartement, je passe dans le couloir, ils sont en train de discuter... Et j'entends Louis Double dire à ma mère « Mais tu sais, puisque ton fils va être homosexuel, autant qu'il soit décorateur. » Parce qu'ils avaient déjà essayé que je sois coiffeur, que je sois cuisinier, ils avaient
vous
tout essayé.
Cette phrase.
Je l'entends et je vais dans ma chambre, je fais « Ah bon, c'est quoi ? Je n'ai pas aucune idée. » Puis ma mère se pointe le bec enfariné et dit « Dis-moi Philippe, ça te plairait de faire des dessins, l'architecture, la décoration, de faire des objets ?» Et comme je n'avais aucune idée de rien et que moi je suis né pour faire plaisir aux gens, je fais « Oh bah oui maman, bien sûr !» Le lendemain, j'allais au 68 rue de Monceau, je monte l'escalier pour m'inscrire, je vois des croquis A4, donc 21, 29, 7, sur un papier calque avec un crayon. Je fais « Oh, c'est génial !» Et 5 ans, 60 ans plus tard, je fais toujours tout mon travail sur le même papier A4, avec le même crayon, puisque j'ai juste fait ça pour faire plaisir à ma mère, c'est tout.
Alors, on dit que vous étiez un élève peu assidu à l'école Camondo, dont vous êtes pourtant sorti bien sûr diplômé. Il paraît que très très tôt, vous avez commencé à développer vos propres inspirations, vos propres projets, qui vous ont permis d'être exposé à l'âge de seulement 20 ans au Grand Palais. Il s'agissait de quoi, Philippe Starck ?
Bien avant, puisque...
Bien avant ?
Je n'avais pas mon permis de conduire pour pouvoir aller voir l'usine.
Vous avez eu les honneurs du Grand Palais à l'âge de 17 ans.
Ah oui, à 16 ans, j'avais les news.
Il faut nous raconter.
J'avais les news avec, en direct avec Mourouzi. Et après, je me rappelle, c'est le concierge de l'école, j'étais en classe, qui arrive et qui dit « Philippe, viens voir, t'es au journal télévisé, t'es au journal télévisé avec Mourouzi !» Alors je suis allé voir, c'était génial. Et après, en effet, j'ai fait cette immense structure gonflable qui était révolutionnaire, qui était le centre du palais, du Grand Palais. C'est simplement que j'avais un pote à l'époque qui jouait au foot avec Lino Ventura. Ventura qui avait une fille qui était pas très bonne santé et qui avait fait une association qui s'appelait Personnage et qui désespérait de ne pas savoir faire connaître son association. Et mon petit camarade a dit « Moi j'ai un pote et il a que des idées géniales, il faudrait que tu le vois. » Je rencontre Lino Ventura qui était à l'époque la grande, grande star, qui m'explique ça et il me parle du salon de l'enfance. Et je fais « Bah oui, bah, je m'en occupe ». Et donc j'ai eu l'idée, j'ai réussi à faire payer les fabricants, à avoir une usine entièrement à moi pendant 48 heures avec tous les ouvriers. Et on a gonflé la chose à la lumière des phares de voiture. On était tellement contents tous les ouvriers qu'on a oublié de fermer la souffleuriste, tout a explosé. On s'est remis au boulot et on l'a monté donc ce truc gigantesque et c'est repassé encore au journal télévisé. Et j'avais, oui, j'avais 16-17 ans, un truc comme ça.
Extraordinaire. Et la même année, Philippe Starck, en 69, Pierre Cardin vous engage. Alors, qu'attendait-il de vous, Cardin ? Pas des croquis de robe ?
Alors, c'est une histoire que je vais être obligé d'un petit peu d'expurger. Mais en gros, là, je commençais à avoir deux ou trois amis qui étaient tout à fait gentils. Ils me traînaient dans leur voiture de luxe. Et on allait à la campagne. Et là, on prenait des produits. Eux, ils sortaient avec des très, très belles filles. Donc, ils étaient un peu occupés tout le week-end. Et moi, pas. Et donc, pendant qu'eux étaient dans leurs activités, moi, je dessinais. Et je dessine tout un week-end dans un état relativement tertiaire. Et le lundi, je m'aperçois que j'avais dessiné des trucs qui sont assez intéressants. En fait, j'avais commencé, comme tout idiot de mon âge, à dessiner une voiture. Et comme je suis un garçon un petit peu futile, je m'étais arrêté au siège. C'est-à-dire que la dose avait fonctionné jusqu'au siège. Et là, j'étais redescendu. Et le lundi, je vois une collection de sièges absolument formidable. Je fais « Waouh, ça c'est moderne, ça c'est intelligent. Mais sinon, c'est quand même bien ce truc-là. » Et je fais « Bah si, je faisais des sièges. » Et à l'époque, il y a Cardin. Cardin, l'homme qui fait tout. Et je dis « Il faut que je rencontre Cardin. Il faut que je rencontre Cardin. » Alors, je m'arrange, je vais m'acheter un petit costard. Je m'arrange, au bout de 2 ans, à obtenir un rendez-vous comme ça, parce que ce n'était pas facile. Et j'arrive avec mes petits dessins. Il regarde et il fait, je vous engage, dorénavant, Cardin fait du meuble. Il me donne le bureau au-dessus du sien, place Beauvau, et je me retrouve à faire les meubles Cardin. Sauf que ça tourne court très vite, puisque moi, je suis quand même d'essence communiste, même si je ne suis pas du Parti communiste, mais d'essence communiste, et lui était d'essence capitaliste. Autrement dit, lui, il voulait vendre un meuble à 1 million, et moi, je voulais vendre 1 million de meubles à un franc. Donc, on s'est séparés assez vite, mais l'histoire a commencé comme ça, et donc j'ai commencé, et j'ai continué après. J'ai fait, puisque j'avais fait cette grande structure gonflable, je savais faire des gonflables. Après, j'ai fait des meubles gonflables. Et après, bon, ça a commencé avec les grands éditeurs, les choses comme ça. Mais tout ça, c'est vraiment, vous voyez, à quel point je ne dirige pas du tout ma barque. C'est-à-dire que je suis le plus grand control freak du monde. Je suis le plus grand maniaque de avec Steve Jobs, mais qui est mort, donc maintenant, c'est moi qui ai sa place. Mais les grandes décisions de ma vie, je ne les ai jamais prises. Je me suis laissé porter parce que je pouvais, parce que j'étais avant tout animé d'un énorme complexe d'infériorité, puisque j'avais jamais eu de père, j'avais jamais eu de repère. Repère et repère, dites-moi Lacan.
Ça ne m'a pas échappé.
Et donc, j'aurais jamais pu imaginer même que je fasse quelque chose. J'avais aucune idée. Pour moi, j'étais une future larve.
La balade est passionnante en compagnie de Philippe Starck. On s'interrompt un bref instant. On se retrouve tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
C'est en compagnie de Philippe Starck qu'on chemine cet après-midi et c'est passionnant. Cher Philippe Starck, lorsqu'on imagine et façonne aussi bien des yachts que des tongs, des presse-légumes que des équipements de mobilier urbain dédiés au sport, comme par exemple les premières stations Sport Libre qui seront disséminées dans Paris bientôt, et quand on dessine des lampes, des casques audio, des valises, mais qu'on est également directeur artistique pour Virgin Galactic, le fameux projet de tourisme spatial de Richard Branson, et puis tout ça n'est pas exhaustif, eh bien peut-on dire qu'il existe un style Starck?
Non. Et naturellement, non. Et volontairement, non. Dès qu'on a un style, on est étiqueté. Et dès qu'on a une étiquette, on est mort. C'est comme les étiquettes au pied des Maccabées
à la morgue.
À la morgue, merci. Je n'ai pas un style. Par contre, j'ai une structure mentale très très précise qui suit des cheminements très précis avec des règles relativement précises qui font qu'à un moment, la logique est la même. Donc, que je fasse un truc dans l'espace, que je fasse une brosse à dents, que je fasse n'importe quoi, la logique est la même. La raison de le faire est la même. Donc, on retrouve un corps central, mais qui doit prendre la forme nécessaire à la faire. Autrement, je ne m'enferme pas. Une forme, je sais tout faire. C'est pas une qualité que j'ai, hein. C'est plutôt un défaut, puisque ça s'approche plus d'Asperger que d'autre chose. Mais
c'est-à-dire que comme les compositeurs qui ont tout le temps dans un coin de leur tête une partition qu'ils sont en train d'écrire, vous regardez le monde et vous le rectifiez.
Ouais, alors eux, ils ont du bol parce que c'est une partie de la tête. Moi, c'est la totalité de la tête qui n'est pas prêt, qui n'est pas utilisée à regarder le monde, parce que je ne regarde pas le monde, je ne vois pas le monde, puisque je suis totalement au milieu de la dune, au milieu de la boue, au milieu de la forêt, au milieu de la mer.
Seul à ce point-là.
Ah oui, on
loin
est seul.
Loin de tout.
Ah oui, on est vraiment seul.
Déconnecté.
Ah, totalement, totalement déconnecté.
C'est-à-dire, la feuille est totalement vierge.
La feuille est totalement vierge. J'ai une feuille, un crayon, une table devant la nature en général, parce que je ne suis pas con de voir des vagues. Et c'est tout. Et après bah, c'est la maladie mentale qui travaille et après qui va se mélanger avec ce que je pense être des nécessités afin d'essayer avec une grande naïveté de créer une meilleure société en ayant un jour l'espoir d'avoir participé à une meilleure civilisation.
Lorsque Steve Jobs vous a demandé de lui dessiner un bateau, que vous a-t-il demandé précisément, Steve Jobs?
Rien. Il m'a demandé un bateau. Il m'a demandé
un
bateau.
Et il vous a laissé libre.
Oui, totalement, puisque j'ai fait le bateau avant qu'il me donne le programme. Et quand il l'a vu, il a dit, lui qui était quand même quelqu'un de structurellement désagréable, et il a dit, c'est au-delà de tous mes rêves. Et après, on l'a juste appliqué. Et on a passé 7 ans avec Steve à raffiner d'une façon maniaque et folle, si ce n'est philosophique et religieuse, tous les détails les plus insensés, pas les plus insensés, les plus parfaits.
Alors Philippe Starck, quand vous avez créé votre agence, donc en 79, vous avez adopté une charte éthique vous interdisant de travailler dans des secteurs comme les armes, l'alcool, le tabac, le pétrole, et tout ce qui touche de près ou de loin aux religions. Voilà. Et vous dites qu'il faut avoir une déontologie extrêmement forte, car ces gens, bien évidemment, ont énormément d'argent à proposer et donneraient tout pour prendre votre intégrité. Alors, 40 ans plus tard, pouvez-vous dire que vous êtes totalement tenu à cette charte ?
Totalement.
Mais alors, par exemple, vous avez fait du champagne, Philippe Stark.
Oui, alors je me suis arrêté à 12 degrés. Je suis français. Le 12 degrés tue, c'est évident. Mais le 12 degrés tue quand même beaucoup moins que de la vodka 70. Donc, je suis un petit peu puriste, mais je ne suis pas non plus suicidaire. Et je fais partie d'une génération bêtement qui aime bien boire un bon vin rouge, un truc comme ça. Donc, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse, je suis d'accord avec vous, mais voilà, je suis pas Dieu non plus.
Philippe Stark, on se retrouve tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
On a rapidement tout à l'heure évoqué le projet Virgin Galactic. Alors, vous dites que effectivement, vous travaillez avec une équipe réduite. Vous êtes seul à concevoir tel un démiurge virtuose, et ça, c'est moi qui le dis. Mais j'imagine qu'il doit arriver parfois sur certains projets que des ingénieurs ou des scientifiques vous disent que vos concepts sont pas tout à fait réalisables. Par exemple, pour ce fameux projet de tourisme spatial qui était celui de Branson, le patron de Virgin, est-ce que vous êtes allé trop loin par rapport à ce que l'aéronautique permettait de réaliser concrètement ou
alors,
pas ?
Nous allons ouvrir une grande page de prétention.
Allez-y.
Eh bien, non, car je sais faire les choses. Je sais faire les choses et quasiment quelles qu'elles soient. Alors, je suis, évidemment, quand je passe à l'exécution de choses extrêmement compliquées, vous savez, on ne sait pas parce qu'on voit un peu ce qui est clinquant chez moi, mais on fait du matériel médical, on fait des choses, on est très, 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 très technique. Et j'ai ce grand bonheur, fierté, et je frime. D'ailleurs, que ça soit bien clair, de frimer, d'épater des ingénieurs et qui ont un geste extraordinaire que j'adore, qui me fait ma journée, si ce n'est ma semaine. Je leur montre ce que je vais faire dans des trucs vraiment, vraiment compliqués. Il y a des choses, hélas, les choses les plus importantes sont sous secret ou militaire ou secret divers, choses comme ça. Et toujours, à chaque fois, ils se tapent la tête comme ça, la main sur le front, ils font « Oh, bon Dieu !» Et ils regardent leurs équipes qui viennent, leurs ingénieurs, ils voient « Mais pourquoi on n'y a pas pensé, nous ? Pourquoi on n'y a pas pensé ?» Et là, j'ai fait « Ouais, 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 vas-y, filou, t'es le meilleur !»
Bon, alors, les ingénieurs, ce fameux projet qui, pour l'instant, est secret, ouais, ont réagi de la même façon.
Alors là, bon, je rouvre le bottin de la prétention et de la fierté. Ils m'ont envoyé une lettre de stupéfaction. Ils m'ont envoyé une lettre en disant « Mais on ne comprend pas comment... » En quelques semaines, vous avez trouvé ce qu'on cherchait depuis des dizaines d'années. Et on vous soupçonne, d'ailleurs, on ne comprend pas pour comment vous avez pu comprendre à ce point-là la vie sans gravité, la vie hors gravité. Et on vous soupçonne, d'ailleurs, d'avoir passé votre vie, c'était pour rire, dans l'industrie spatiale. Ils sont bluffés.
Alors, cher Philippe Stark, juste avant que nous nous interrompions vraiment très brièvement, à l'opposé de votre spectre créatif, eh ben, y a des projets dont le concept semble carrément minimaliste et qui repose en fait sur une idée imparable. Comme par exemple celui de la fameuse station Sport Libre qu'on va voir fleurir un peu partout dans Paris. Il faut nous expliquer. Alors là, on quitte l'aérospatiale, oui, et on retombe sur Terre. Alors, mais pour une idée vraiment très, très intéressante.
Il y a deux paramètres. Il y a le paramètre humain. C'est un jour, il y a le Yeti qui sonne à la porte et qui rentre dans mon bureau. C'est Chabal. Le rugbyman, c'est cet homme extraordinaire, oui, fabuleusement beau, avec la barbe, avec sa voix comme ça caverneuse. Et là, tout le monde est comme ça, et moi le premier. Je vois un vrai mâle dominant, donc je suis dominé à la seconde. Il me dit, Philippe, il faut qu'on travaille ensemble, et il faut qu'on fasse des stations pour les Jeux Olympiques, pour aider les jeunes à faire de la gym, des choses comme ça. Et là, je fais d'abord, oui chef, pas éviter qu'il me tape dessus, pas la tête, pas la tête. Et après, je suis totalement, profondément d'accord, parce que moi... Je le répète, ce n'est pas de la fausse modestie ou de la fantaisie. Je ne suis pas intelligent. Donc, je suis fasciné par l'intelligence. Et je sais que pour que l'intelligence existe, il faut un cerveau. Et un cerveau, c'est une machine fonctionnante qui est très importante. C'est de la chimie, de l'électricité. Et cette machine fonctionnante, elle doit être portée par un corps qui doit être en très bon état aussi pour que le cerveau fonctionne bien. Et donc, ça fait très, très longtemps que je suis intéressé par ça. C'est comment faciliter l'accès à un corps sain, non pas pour avoir un corps sain dont je me fous un petit peu, il n'y a qu'à me regarder, mais surtout pour arriver à une pensée de très haute qualité.
D'où, et donc, alors, ces mini-stations dans Paris.
Voilà.
Alors, et difficile à la radio d'expliquer comment elles sont conçues, mais c'est frappé du sceau de l'évidence.
Bah d'abord, les Jeux Olympiques, je crois, vont être en 2024, c'est ça ? Donc, il y a 2024 stations qui vont être dispersées à travers la France, qui vont être posées sur le trottoir. Il y a déjà une qui a été posée à Clichy, comme ça. Et donc, c'est Chabal, évidemment, qui a donné les on peut lui faire confiance, vu comment il est roulé, les mouvements de base qu'il faut faire. Et à moi, ça a été d'en faire un objet qui résiste à toute forme de vandalisme,
qui évidemment, est en plein air.
Qui est en plein air, qui est libre, évidemment. Et qui fasse les bons gestes, les bons mouvements, qui ne coûte pas trop cher et qui soit attractive, si ce n'est, pour reprendre votre terme, belle et harmonieuse. Et donc, on a travaillé 2 ans là-dessus, on a réussi, surtout, je le répète, avec un prix de revient extrêmement bas. Donc voilà, c'était un travail assez joli de 2 personnes totalement à l'opposé. Lui est très fort, très mâle, magnifique, il est très intelligent. Moi, je suis plutôt très féminin. Je suis pas très intelligent, formidablement intuitif, et on a fait quelque chose qui sert. Et ça fait toujours plaisir de faire quelque chose qui sert vraiment, pas un petit truc pour la mode.
Formidable. On retrouve tout de suite Philippe Stark.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Philippe Stark, quels objets ou œuvres du passé tolérez-vous chez vous ? Il reste muet.
Oui. Je tolère bien un très bon matelas.
Un matelas du passé.
Un matelas du passé.
Non, mais je ne le recommande pas.
Non, moi non plus, mais c'est un truc qui a toujours existé. Écoutez, c'est difficile. Je ne vois pas ce qu'il y a du passé chez moi. Je vois des choses qui sont intéressantes, qui méritent d'être autour de moi parce qu'elles me parlent de quelque chose. Elles servent à quelque chose. Mais du passé, je ne vois pas parce que...
Alors, par exemple, un tableau. J'imagine qu'un tableau du Gréco vous comblerait de bonheur.
Oui, bien sûr, mais j'ai fait un petit peu une règle dans ma vie. D'abord, de ne pas acheter trop d'art tant que l'art n'a pas été moralisé par eux-mêmes. Et après, d'acheter et de lire des gens vivants. Parce que il faut notre rôle est de faire vivre ces créateurs de tout ordre afin qu'ils puissent produire. Et donc, faire vivre un mort ne sert pas à grand-chose, en plus qu'elle soit difficile.
Alors, curieusement, vous, dont la renommée est née en designant des objets, vous dites que nous possédons toujours trop.
Bah oui. Vous savez, moi, je suis un peu né dans l'écologie par hasard. Et donc, j'ai toujours été dans cette histoire de comment faire moins, comment produire juste, comment... Et en fait, j'ai participé, je continue à participer, car évidemment, toute personne qui a la responsabilité de produire doit évidemment produire dans les règles écologiques, avec la relativisation, je ne sais pas si c'est français, de voir les vrais chiffres. C'est-à-dire que tout ce que nous, les petits Stark, on a inventé ces dernières décennies pour des raisons écologiques, doivent représenter moins de 4% de nos besoins. Donc la réalité écologique, ce n'est pas nos solutions. La réalité écologique, il n'y a qu'une seule, c'est consommer moins.
Alors Philippe Stark, chaque époque s'est trompée sur l'habitat du futur. Mais les villes du futur, vous, vous les imaginez comment ?
Avant de parler de forme, il faut parler de fond. Est-ce que la ville est le modèle du futur ? C'est pas certain. D'abord pour des raisons démographiques et après pour des raisons même techniques. En gros, il y a beaucoup de structures qui vont changer, profondes, qui ne donnent pas forcément un avenir favorable à la ville à long terme, à moyen terme, si. Mais ce qui m'intéresse surtout, avant de parler de la ville, c'est l'habitat. Aujourd'hui, les sommes d'argent qu'il faut pour mettre sa famille à l'abri de la pluie et du froid sont totalement anormales, surtout en général pour avoir une qualité extrêmement faible. Donc, je crois que le principal sujet, c'est l'économie de la chose. Aujourd'hui, il y a une perte de savoir-faire verticale, une montée des coûts verticale, une perte de moralité, on pourrait dire, sur le travail bien fait verticale. Donc, l'avenir est avant tout à la préfabrication. Autrement dit, il n'y a pas aujourd'hui d'autre issue que d'attendre qu'il y ait des cellules préfabriquées de qualité qui ne sauraient tarder. Moi, j'en ai une qui fonctionne plutôt bien. J'en ai deux, d'ailleurs. J'en ai deux qui fonctionnent plutôt bien. où on peut, où une famille peut dire ça me coûtera tant, comme il sait quand il achète une voiture, et non pas des dérapages financiers qui peuvent amener une famille à la faillite, de vivre dans des choses de très haute technologie avec des grands conforts, comme j'ai d'ailleurs une maison qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme.
Oui.
Mais surtout, c'est l'accession. L'accession à l'abri de la famille. Aujourd'hui, si vous comparez une automobile et une maison. Une automobile, moi j'aime pas l'automobile, mais reste que c'est un produit de l'intelligence humaine extraordinaire. Ce qu'une automobile donne aujourd'hui pour son prix, c'est incroyable. Pour 12 000 euros, vous avez un truc qui avance, qui va vite, qui est étanche, qui est anti-choc. Et une maison, c'est un tas de boue. Un tas de boue au sens propre du terme. Et donc, une maison va vous coûter 150 000 euros un pavillon de banlieue qui a une durée de vie de 3 ans avant que ça commence à fuir. Une automobile à 150 000 euros, je peux vous dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, l'idée aujourd'hui doit être technique et politique. Il faut absolument utiliser les méthodes de la grande industrie pour produire des maisons au prix des voitures, à 20 000 euros.
Alors, Philippe Starck, vous étiez très 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 en avance avec le concept en 1992 de maisons individuelles en bois et en kit, vendues par correspondance avec les trois Suisses. L'objet final, d'ailleurs, une fois assemblé, était vraiment extraordinaire de confort, il était pratique, c'était d'une poésie étonnante. C'est vraiment le seul de vos projets qui n'a pas fonctionné. Est-ce que le concept du prêt à monter soi-même a fait peur aux gens?
Alors, il y a plusieurs paramètres. Un, à l'époque, je faisais plutôt ça pour embêter le grand capital et les fabricants de merde. Donc, c'était plus une opération politique qu'autre chose. Et les gens qui me soutenaient étaient très contents de faire une opération publicitaire. Donc, des deux côtés, on se fichait un petit peu du résultat, que ça se vende ou pas. On voulait surtout, eux, faire de l'image. Et moi, je voulais dénoncer la loi scélérate qui fait qu'on peut construire une maison sans architecte et donc à la merci de n'importe quel grand groupe qui vend des trucs en carton, du moment qu'elle fait 149 mètres carrés. Et donc après j'ai eu autant pour autre chose, mais on a refait une autre compagnie qui s'appelle PATH, P-A-T-H, où là on est vraiment capable d'appuyer sur un bouton et sortir la maison en 2 mois.
Formidable. On s'interrompt un bref instant et on repart en balade immédiatement avec Philippe Starck.
Europe 1. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Philippe Starck, depuis le début de cette conversation, on parle de dématérialisation, on parle d'objets de plus en plus légers qui deviennent de plus en plus intelligents. Alors, faut pas y voir une métaphore douteuse, hein, mais vous-même, Philippe Starck, eh bien chaque année, vous pratiquez cette quête de la légèreté, puisque chaque année, vous vous astreignez à un jeûne absolu de 13 jours. Vous revenez avec les neurones plus affûtés ?
C'est pas chaque année, j'y vais 4 fois par an, et j'y vais dans une semaine, et je fais un jeûne en effet.
4 fois par an, vous jeûnez pendant 13 jours d'affilée ?
Oui, et alors d'abord, que je vous rassure, c'est pas du tout un problème. Ça paraît quelque chose d'incroyable, mais avec soi, ça ne l'est pas. Il faut comprendre le mot, les mots qui nous entourent, jeûner. Ça veut dire que notre état, c'est de jeûner, et déjeûner, c'est d'arrêter
c'est
le jeûne.
Le
Donc,
jeûne.
On comprend à travers les mots que notre état naturel d'avoir l'estomac vide et pas l'estomac plein. Avant, on avait l'estomac vide et on le remplissait quand il y avait besoin. Aujourd'hui, on a l'estomac plein en permanence parce qu'on est incité pour plein de raisons.
Et au terme d'un jeûne, on a réellement les neurones plus affûtés ?
Ah oui, mais pas au terme. Au 3e jour, on est un génie.
Mais alors, au 13e jour, on est quoi ? Parce que c'est long, 13 jours de jeûne.
On est toujours un génie. Non, parce que c'est long pour les gens qui font rien. Moi, je pars avec 3 mètres cubes de dossier. Je travaille comme un damné. Je crée mon propre cycle, mon propre rythme biologique. C'est-à-dire que je travaille 3 heures, je dors 45 minutes, je dors et ça 24 heures sur 24. Et c'est quelque chose, je le répète, qu'il faut avoir fait, il faut le faire pour comprendre que c'est la vérité. Et après, la vie vous rattrape. La vie vous rattrape. Demain matin, nous, on sera dans l'avion. On va faire pendant la semaine un gros tour du monde. Et là, le décalage horaire, les machins, on va manger 6 fois par jour. Je vais prendre 2 kilos. Je serai couvert de boutons. Et je suis d'ailleurs pars avec, pour être sûr d'en avoir. Et je reviendrai et je mangerai chez moi mon bol de quinoa le matin, mon bol de quinoa à midi, mon bol de quinoa le soir, en attendant avec impatience d'aller faire un jeûne complet. Mais alors, nous savons, on vit comme des moines.
Philippe Starck, quel âge a votre plus jeune enfant que vous avez prénommé Justice ?
Elle vient d'avoir 7 ans.
Elle vient d'avoir 7 ans. Alors, en fait, la plus belle, la plus complexe et la plus autonome des créations et celle qui, en fait, a échappé au créateur et au designer que vous êtes, c'est-à-dire un enfant.
Oui, oui, tout à fait. Sauf la dernière que je vois grandir. Je ne veux pas dire que je participe beaucoup à son éducation parce que j'en suis incapable, je suis trop pris dans tout. Et surtout, je ne sais pas faire de multiplication, je ne sais pas faire de division. Donc, et c'est vrai.
Donc on ne peut pas trop aider pour les devoirs.
Je ne peux pas trop l'aider. C'est vrai que les quatre autres, je les ai clairement ratés. Non, ils sont sublimes, ils sont extraordinaires. Mais
j'avais raté la connexion, c'est ça ?
Oui, maintenant on est connectés. On a toujours été connectés. Je pense que j'ai hérité par hasard de cette éducation par osmose, comme pour mon père. C'est-à-dire que visiblement, si on tire les grandes lignes, les généralités de mes enfants, ils sont très pareils. Ils ont des gens très intelligents, avec une éthique très forte, ce sont des belles personnes. Et je pense que d'après ce que j'ai entendu dire des mères, c'est ce que j'ai transmis. J'ai transmis des valeurs, des belles valeurs. C'est déjà pas mal. J'ai jamais lavé un biberon de ma vie, j'ai jamais torché mes gosses, mais je sais pas le faire, c'est tout. Mais c'est vrai que si j'ai contribué avec les mères à créer des belles personnes qui peuvent transmettre des belles valeurs, je pense que j'ai mal fait mon travail, mais au final, le bilan n'est pas trop catastrophique.
Cher Philippe Stark, je vous dis à très vite et je vous souhaite un bel été.
Merci.